Ce matin, notre culte est un tout petit peu plus condensé, puisque nous avons une assemblée générale à l'issue du culte. Je vous propose d'ouvrir avec moi la parole de Dieu, et ce matin, on va ouvrir l'évangile de Luc au chapitre 19. Dans notre série, nous arrivons bientôt à la fin de cette série sur la restauration. Nous en avons vu de nombreuses facettes. On ne peut jamais tout dire, mais j'espère en avoir donné suffisamment pour que les uns et les autres puissent trouver auprès du Seigneur la restauration qu'il veut leur accorder. Aujourd'hui, je voudrais juste terminer sur ce point important de la repentance. Comme nous l'avons vu, il ne peut pas y avoir de restauration sans repentance. La restauration, la repentance fait pleinement partie, c'est un élément vital de la restauration que le Seigneur veut accorder à nos âmes, à nos cœurs, à nos vies, dans toutes les situations. Nous avons vu, nous avons insisté sur le fait que la repentance ne peut pas dépendre de nos blessures. Nos blessures sont une chose, les points sur lesquels nous avons besoin de repentance sont autre chose. Et nous ne pouvons pas nous servir de nos blessures pour nous dissimuler. Nous avons vu que dans ce genre de cas, malheureusement, nous nous faisons beaucoup de mal et nous nous privons de la bénédiction de Dieu. La repentance ne peut pas dépendre non plus du temps qui a passé. Lorsque Jean-Baptiste reprend cette parole d'Ésaïe et qu'il dit « Préparez le chemin du Seigneur au désert, aplanissez les sentiers », il y a vraiment ce message de repentance et cette image que pour permettre au roi, Jésus est le roi, qui vient et qui veut rentrer dans ma vie avec son cortège de bénédictions, tous les habitants, tous les destinataires des bénédictions du cortège royal, tous les destinataires avaient la responsabilité, c'était à eux de le faire, d'aplanir, lorsqu'il y avait des pierres, il fallait les enlever. Il fallait dégager la route. Là où il y avait des obstacles, là où il y avait des creux, il fallait combler. Et en réalité, la repentance, au sens de dégager le chemin de nos cœurs, ne peut pas disparaître parce que c'est une situation, vous comprenez, il y a prescription, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans. Une pierre sur le chemin restera toujours une pierre sur le chemin jusqu'à ce qu'on ait accepté de régler ce qu'on a à régler, avec qui on doit le régler et qu'on ait enlevé la pierre qui est sur le chemin. Et c'est dans un profond sentiment d'amour, de grâce, que le Seigneur insiste d'une façon ou d'une autre, parce que la repentance est une grâce, c'est un principe de bénédiction. Déjà, la repentance nous évite de nous fourvoyer dans nos torts et dans nos péchés. Mais en plus, elle est libératrice de bénédictions, puisqu'elle va permettre justement au roi de venir et d'apporter toutes les bénédictions qu'il veut apporter. On a vu aussi que la repentance, ce n'est pas seulement au départ de ma conversion, de ma vie nouvelle avec le Seigneur. La repentance, au sens de dégager la route, c'est aussi une attitude de cœur. C'est une façon d'être, c'est quelque chose qui est permanent, c'est une disposition de cœur. Je suis sans cesse disposé, Seigneur, à régler, à enlever, à combler, à dégager, à aménager, à maintenir, ou parfois simplement à maintenir accessible, à maintenir propre la route, le chemin de mon cœur. Seigneur, pour que tu puisses venir faire ce que tu as à faire comme tu veux le faire. Et quand tu veux le faire, et c'est en cela que la repentance est véritablement une grâce. On a vu aussi que la repentance commence toujours, il y a quatre éléments, on en a vu deux, on va voir les deux autres ce matin. On a vu que la repentance commence toujours par une profonde prise de conscience où nous allons regarder les choses en face, où nous allons appeler un chat, et où nous n'allons pas sans cesse comme le fils aîné, ou comme le pharisien, pointer du doigt les autres en disant « Je te rends grâce, ô mon Dieu, de ce que moi je ne suis ni un meurtrier, ni un alcoolique, ni je ne fume pas, ni je ne regarde pas de pornographie, ni machin, je ne suis pas adultère, j'ai tué personne. » On a une classification de péché inconsciente. avec des choses qui nous paraissent énormes, et quand on ne les a pas fait, ben on se réfugie derrière, on dit « Ah, mais moi, je ne suis pas comme ça, moi, je n'ai jamais fait ça. » Seulement, la Bible est claire sur le fait que l'orgueil, c'est du péché. La désobéissance, c'est du péché. L'incrédulité, c'est du péché. La négligence spirituelle, la léthargie spirituelle, la paresse spirituelle, c'est du péché. L'amour de l'argent, c'est du péché. La langue, le péché de la langue, la critique, les colportages, les ragots, les mensonges, la médisance, les disputes, les querelles, l'esprit de jugement, le légalisme. Il y a tellement de choses qui paraissent tellement, qui sont tellement insidieuses, elles paraissent quasiment pas graves. Mais pourtant, aux yeux du Seigneur, lorsqu'il voit des choses sur le chemin de nos cœurs, il dit « C'est parce que je t'aime. Je voudrais vraiment que cette façon de penser chez toi, je voudrais que cette attitude, je voudrais que ce comportement, je voudrais que cette façon de regarder les autres, je voudrais que cette façon de parler, je voudrais que cette façon de raisonner chez toi, ça disparaisse parce que tu m'empêches de te bénir. » Et puis, une fois qu'on a une prise de conscience, qu'on s'est laissé éclairer par le Saint-Esprit et la parole, ensuite vient le temps tout simple de la confession. Dieu ne nous demande pas de nous flageller pendant des heures. Le Seigneur veut simplement, il veut des mots simples. Il veut des mots clairs, des mots audibles, mais des mots nécessaires, parce qu'ils font partie de la puissance de nos paroles. Et c'est une façon pour nous de ne pas nous dissimuler. C'est une façon comme David à un moment qui a dit « Oui, c'est vrai Seigneur, je suis cet homme-là. » Et ça a suffi à Dieu pour le restaurer. Et c'est un moyen pour, devant Dieu de démontrer que notre cœur est vrai, notre cœur est honnête. Et c'est ce que Dieu aime. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être parfait. C'est lui qui, dans sa grâce, par sa parole, par le Saint-Esprit, par notre communion avec lui, c'est lui qui va nous amener de progrès en progrès. C'est lui qui nous amène toujours plus loin. C'est lui qui nous sanctifie. C'est lui qui. Le Seigneur nous demande des cœurs vrais, des cœurs droits, des cœurs authentiques, et de dégager tout ce qui pourrait faire obstacle à son action. La confession, elle est libératrice. Confesser à Dieu, c'est un moyen de régler, de mettre un terme définitivement. C'est un moyen de clôturer les dossiers que nous avons avec Dieu. C'est un moyen de saisir, en confessant, nous saisissons aussi le pardon que Jésus nous a acquis à la croix, mais qui, tant que nous ne sommes pas repentis, le pardon reste à la croix. Et c'est une façon de régler les dossiers. Quand nous parlons à un frère, à une sœur, à un membre de famille, à quelqu'un, quand nous parlons avec vérité, c'est une façon de régler les choses, de clôturer les dossiers, non pas de les ranger dans un tiroir, hein, mais de les détruire définitivement. C'est bon frère, c'est bon sœur, c'est fini, tout ça c'est réglé, on s'est parlé dans l'amour, c'est fini, tout est réglé devant Dieu, tout est réglé avec toi. On va passer à ce point de la réparation, mais je veux insister simplement sur la conclusion que j'ai apportée la semaine dernière, et j'enchaînerai avec ça. J'ai terminé la semaine dernière en soulignant, bien aimé, que au-delà de nos péchés, au-delà de nos faiblesses, de nos torts, au-delà de nos négligences, au-delà de n'importe quelle forme pratique, des circonstances, d'échecs, de ce que vous voulez, au-delà de tout ça, le sang de Jésus est toujours plus puissant que tout ça. Et la vraie question, c'est, il y a ceux qui se repentent et il y a ceux qui ne se repentent pas. Au-delà de n'importe quelle forme pratique d'échec ou de péché, le principe depuis l'Éden, c'est toujours, peu importe les personnages, peu importe les fautes, peu importe les circonstances et les formes pratiques, il y a toujours c'est toujours le même théâtre, la même pièce, pardonnez-moi, c'est toujours la même pièce qui se joue. Il y a ceux qui se désignent comme coupables et ceux qui désignent les autres. Il y a ceux qui vont invoquer Christ comme moyen de justification et d'autres qui vont s'auto-justifier. Il y a ceux qui vont reconnaître leur faute et puis ceux qui vont se trouver des circonstances atténuantes. Bref, il y a ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. C'est aussi simple que ça. Et par contre, bien sûr, ceux qui ont présenté à Dieu des cœurs repentants ont toujours été justifiés, toujours pardonnés, toujours restaurés. Parce que c'est juste ce que Dieu aime, c'est ce qu'il veut. Ce matin, on ouvre ensemble l'évangile de Luc au chapitre 19 et je partage avec vous deux points
très simple, qui se trouve être toujours dans le cadre de la repentance, la réparation et le changement. Deux points qui sont intimement liés, mais une repentance n'est pas complète aux yeux de Dieu s'il n'y a pas réparation et s'il n'y a pas un changement véritable derrière, je m'explique. Luc chapitre 19, verset 1er, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, Jésus leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta, il se hâta de descendre, et il le reçut avec joie. Voyant tout cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'il a la véritable foi, celle de cœur et pas celle de façade. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Je ne vais pas prendre tous les éléments de ce récit, mais ce qui va réellement nous interpeller ce matin dans la méditation, c'est que Zachée est un excellent exemple, l'un des meilleurs exemples de réparation. Le péché n'affecte pas seulement notre relation avec Dieu. Il a aussi des répercussions sur le plan, non pas vertical, mais sur le plan horizontal. C'est pour ça qu'à la croix, il y a un linteau vertical, parce que par Jésus, nous sommes réconciliés. Notre communion avec le Père est réparée par Jésus. Il y a une restauration verticale. Et ensuite, on va le voir dans la mesure du possible, selon les cas, il y a à minima une réparation à l'horizontale, parce que Jésus, à la croix, est là aussi pour nous rassembler, nous saisir avec Dieu et les uns avec les autres. C'est pour ça qu'à la croix, il y a deux linteaux, un vertical et un horizontal. Et Zachée, lui, il comprend, il va mettre beaucoup, il a reçu Jésus avec joie, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur, c'est clair, le salut est entré dans sa maison, j'espère que c'est le cas pour tout le monde ce matin. Maintenant, il y a autre chose que Zachée, pardon, a parfaitement compris, il dit bien, si j'ai fait du tort à quelqu'un, il a profondément conscience que le péché n'a pas seulement été une offense à Dieu, mais qu'il a eu aussi des répercussions, des impacts négatifs sur ceux qui l'entouraient, les autres aussi. Alors, bien évidemment, quand il dit « je lui rends le quadruple », on ne va pas en faire une loi. Zachée n'est pas en train d'acheter Jésus. Il n'est pas en train d'acheter son ciel. On ne va pas en sortir une loi bête et méchante en disant « peu importe ce que tu as fait, arrange-toi pour quatre fois ». Non, non, c'est bon. Puis vous ne voulez pas me faire cette paternoster non plus. Non, non, c'est bon. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il n'est pas venu mériter son ciel. Ici, l'exemple nous montre que Zachée a compris les conséquences néfastes du péché autour de lui. Et montrer non seulement qu'il a compris cela, mais compris et qu'il montre, en disant cela, il montre sa disposition de cœur, sa promptitude à réparer ce qu'il a pu commettre. Et c'est ça qui est important. C'est ce qui, ça fait partie de ce fruit. Ce matin, vous avez compris, réparation, changement. J'avance. C'est ce qui fait partie de ce que Jean-Baptiste appelle le fruit digne de la repentance. Le fruit, c'est ce qui va être visible au bout de l'arbre. Il y a une vie invisible, la sève, il y a une vie invisible à l'intérieur, et le fruit, c'est la preuve visible qu'il y a une vie à l'intérieur. Le fruit est la preuve visible qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a un changement. Paul dit bien en acte 26, « J'ai prêché la repentance à Dieu avec la pratique d'œuvres digne de la repentance. Jean-Baptiste dit du fruit digne de la repentance, mais c'est la même pensée. C'est-à-dire cette conscience qu'on a pu offenser, blesser, faire du tort, cette profonde conscience qu'il est nécessaire aussi de réparer, cette promptitude à réparer. Là, c'est un cas particulier pour Zachée. Mais chacun dans nos situations diverses et variées, la réparation. Par exemple, dans le cadre, c'est facile, oui, ça peut concerner quand même des personnes. Dans le cadre de Zachée, peut-être un minima, si tu n'as pas été honnête dans tes affaires, il faudrait peut-être arrêter le travail au black, parce que c'est du péché. Il faudrait peut-être être totalement clean et transparent au niveau de tes examens, jeune homme, jeune fille, parfaitement transparent au niveau de ton CV, parfaitement transparent au niveau de tes affaires, de tes déclarations, de ta façon de gérer ta vie, tes affaires, etc. Et s'il y a quelque chose, tu vas le rendre, tu vas rétablir. Dans le domaine, je parlais tout à l'heure de la langue. Vous savez, quand on a eu des paroles blessantes, quand on a eu vis-à-vis de quelqu'un, que ce soit de la calomnie ou de la médisance c'est une vérité, mais qu'on va utiliser pour nuire à la personne. Alors c'est peut-être pas de la calomnie, c'était de la médisance. Ah mais j'ai dit la vérité. Oui, mais l'intention derrière, c'était pas... Ça s'appelle de la médisance. Lorsqu'il y a eu critique, il y a eu le colportage. Derrière, j'ai conscience que la première personne que j'ai offensée, c'est le Seigneur lui-même. Tes frères et sœurs, ils ne sont pas parfaits, mais n'oublie pas qu'ils portent l'image de Jésus en eux. Quand tu touches à ton épouse, à ton mari, lorsque tu touches à un frère, à une sœur, un membre de ta famille spirituelle, lorsque tu touches à quelqu'un, c'est à Jésus que tu touches prioritairement. C'est lui le premier offensé. Et je veux régler avec lui, mais ensuite derrière, je veux aussi avoir l'honnêteté, le courage, c'est ce qu'il en faut. Et l'honnêteté, parce que ça touche mon ego, mais c'est bénissant derrière, d'aller voir un frère, une sœur, lui dire, tu sais, je te demande pardon parce que j'avais dit ça et ça sur toi, mais je n'ai pas été honnête, je me suis trompé. Tu sais, quand j'ai dit ça, ce n'était pas totalement... J'ai enjolivé... Frère, je te demande de me pardonner. Puis si tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies au sujet d'un tel, va voir les gens à qui tu as parlé. Et répare. Et tu vas dire, tu sais, le jour où je t'ai dit ça sur lui ou sur elle, ça et ça, j'ai demandé pardon à Dieu, mais je te demande pardon. Et je lui ai demandé pardon. Et toi aussi, on va régler ça. Très souvent aussi, je viens de le dire, réparer comment ? Oh, ça va très souvent, 90% des temps. Du temps, la réparation, elle se fait par une demande sincère de pardon. Nous demandons pardon. Ou alors, lorsque nous avons été offensés, pour aider à réparer, nous accordons le pardon. Soit nous le demandons si nous avons des fautes, des torts, ou alors nous l'accordons si nous avons été blessés. Ou parfois les deux. Mais de façon générale, nous faisons ce qu'il y a à faire pour régler ce qu'il y a à régler, avec qui nous devons le régler. Ça s'appelle une authentique repentance. Et c'est la preuve, parce que c'est intimement lié, c'est la preuve d'un authentique changement. C'est ça le fruit digne de la repentance, parce que cette démonstration dans la réparation va prouver qu'il y a eu un changement intérieur. Réparation et changement sont en vérité, je vous l'ai dit, intimement liés. Ce changement, je vous ai mis quelques textes ici. Je ne vous ai pas fait lire, mais c'est dans Matthieu 3, 8, ce que j'ai cité. Lorsque Jean-Baptiste, alors que le peuple, ceux qui viennent et se font baptiser, c'est écrit, ils confessent leurs péchés et ils sont baptisés pour la repentance. Et une fois que ça s'est fait, il est dit aussi dans le texte que Jean-Baptiste voit venir à lui des pharisiens. Ils étaient drapés dans leur auto-justification. Ils étaient là simplement pour faire style, pour essayer de faire beau, de faire joli, mais Jean-Baptiste discerne leur cœur et il sait qu'à l'intérieur, ils sont en train de jouer une comédie et Jean-Baptiste est en train de leur dire, hypocrite que vous êtes, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et c'est là que c'est intéressant. La version Sommer, si vous l'avez, il y a souvent des tournures de phrases qui sont quand même vraiment intéressantes. La traduction Sommer dit « Produisez pour fruit des actes qui prouvent que vous avez changé. » Des actes, réparation, qui prouvent que vous avez changé. La version, j'ai mis PV, c'est Parole vivante, c'est une excellente aussi traduction du Nouveau Testament, qui dit ici, dans ce cas, c'est à peu près la même pensée, prouvez par vos actes que votre changement est réel. Ah, tu sais, vraiment, je suis désolé, machin, tu sais, j'ai changé. Prouve-le. La réparation me prouve qu'il y a un véritable changement de cœur. Ce changement, quand il est question de repentance, dans tous les textes, notamment quand Pierre dit, repentez-vous, métanoïa, produisez du fruit digne de la repentance, dans la bouche de Paul, dans la bouche de Jean-Baptiste, c'est métanoïa, la repentance. Et cette métanoïa, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a deux aspects dans la définition de ce mot. Il y a effectivement cette tristesse, une tristesse selon Dieu, comme dit Paul aux Corinthiens, une tristesse selon Dieu, parce que la tristesse selon Dieu que l'on éprouve par le Saint-Esprit pour avoir offensé Dieu, pour lui avoir fait de la peine. C'est la peine et la douleur que nous ressentons par le Saint-Esprit d'avoir offensé Dieu. Mais aussi la deuxième facette, c'est que dans la métanoïa, ce mot comprend la notion de changement, de métamorphose, de demi-tour. Il y a un changement d'état d'esprit, un changement d'intention. Il y a un changement de parole, un changement de pensée. C'est le changement, un changement dans mes choix, un changement dans ma façon de raisonner, un changement dans ma façon de parler, un changement dans mes priorités de vie, un changement dans ma mentalité, un changement dans mon état d'esprit. Métanoïa, repentez-vous. Oui, c'est sûr, vous avez éprouvé de la tristesse, le Saint-Esprit vous a convaincu. Oui, c'est vrai, vous avez confessé à Dieu. Oui, c'est vrai, vous réparez. Mais mon frère, ma sœur, change. À quoi ça sert quand par le Saint-Esprit, parce que quand on a une conviction, vous savez que c'est l'Esprit qui met les convictions dans les cœurs. Et l'œuvre de l'Esprit, elle est belle, elle est précieuse, c'est pas pour rien. À quoi ça sert, j'insiste, quand on a eu la grâce de recevoir dans notre cœur une conviction de l'Esprit qui voulait que l'on règle quelque chose, que l'on ait confessé à Dieu parce qu'on savait qu'il allait nous bénir, qu'on le répare et qu'on recommence. C'est logique. Dans la métanoïa, il y a cette notion de changement. Et tant qu'il n'y a pas de réparation et tant qu'il n'y a pas de changement réel derrière, la repentance en réalité est incomplète et par conséquent, elle devient, je dirais dans une certaine mesure, inutile parce que l'on finit par retomber toujours dans le même cercle des mêmes péchés, des mêmes torts, des mêmes travers, les mêmes limites, les mêmes défaillances, les mêmes disputes, les mêmes querelles, les mêmes limites, etc., etc. Et on retombe dans les mêmes choses, dans les mêmes schémas, dans les mêmes pensées. Et on vit. Alors, Seigneur, je te demande pardon. Oui, ben le Seigneur, il te pardonne, amen, hein, bien sûr, il a acquis ton pardon à la croix. Va lui demander 359 000 fois, il va 359 000 fois t'accorder son pardon. Et tu recommences. Change et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Change et sois libre. C'est logique, non? À quoi ça sert que je demande pardon? Soit à mon conjoint, mon mari, mon épouse, peu importe. Je demande pardon à mon conjoint parce que la moutarde a monté cette semaine. Et là, je sais, j'ai pas été. L'Écriture dit, c'est très sérieux, frères et sœurs. Quand l'Ecclésiaste dit que le soleil ne se couche jamais sur votre colère. Si vous vous mettez en colère, c'est très dangereux la colère, ne péchez pas. La limite est très fine. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, dit Paul. Ecclésiaste dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il y a des choses que l'on ne règle pas, dans le couple ou ailleurs autrement. Il ne faut pas se leurrer. Ça s'accumule. Ça s'accumule. Alors je prends conscience, le Seigneur me fait cette grâce, je vais parler à mon épouse, à mon époux. Peut-être qu'il va falloir qu'un jour je parle à mes enfants parce que j'ai été trop dur, j'ai été injuste sur certains points avec eux. Peut-être que des parents devront aller voir, des enfants devront aller voir des parents inversement. Un frère, une sœur, peu importe, un membre de famille spirituelle, charnelle, peu importe. Je demande pardon. Et derrière, je recommence. On reproduit le colportage, on reproduit la dispute, on va recommencer à se rechicaner pour les mêmes choses. Est-ce que je vais vivre avec les mêmes sentiments? Est-ce que je vais vivre avec les mêmes critiques? Est-ce que je vais reproduire les mêmes disputes? C'est pour ça qu'il doit y avoir un profond désir, non seulement de réparation, mais aussi un profond désir de changement. Changement. C'est pas le tout de dire, Seigneur, je te demande, j'en ai pris conscience, je te demande, après avoir pris conscience qu'il y a une pierre sur le chemin, je te demande pardon, Seigneur, pour cette pierre qui était sur le chemin de mon cœur. Je voudrais réparer. Alors je prends la pierre, et 2 jours après je la remets. Ah Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai, ah, puis, depuis la semaine dernière. Puis c'est vrai ce pasteur, c'est vrai qu'il est un peu lourd ce pasteur, mais peut-être qu'il a un peu d'inspiration, ça fait quand même 5 semaines qu'il nous parle de ça. Ah il l'avait dit la semaine, ah Seigneur, c'est vrai, je te l'avais dit, j'ai recommencé, pardon Seigneur. Je recommence, je remets la pierre. Le Seigneur, il me dit, mais je t'aime, hein, c'est pas que je... Il dit, on va faire ça combien de temps? Vous voyez qu'il y a tellement de logique dans la parole de Dieu, dans l'approche du Seigneur, il y a tellement de logique. Ça ne sert à rien d'enlever une pierre du chemin si c'est pour la remettre. Il faut qu'il y ait un authentique changement, une véritable transformation. Et ça, c'est aussi une grâce. Ça fait partie de la grâce de la repentance parce que c'est libérateur pour ma vie, c'est libérateur dans nos couples, c'est libérateur dans nos relations, c'est libérateur et c'est un principe de bénédiction. De façon générale, quand on parle de changement, je peux le dire aussi ainsi, avant de conclure avec 2-3 petits points de précision, se repentir, le changement, on peut le dire ainsi, c'est cesser de faire le mal qu'on était habitué à faire. J'en ai pris conscience, j'ai demandé pardon, j'ai réparé, mais il faut que ça cesse, il faut que ça change. Cesser de faire le mal que j'étais habitué à faire. Voilà une repentance pour qu'elle soit totale. Jésus dit bien à la Samaritaine, à la femme adultère, Jean chapitre 8, la femme samaritaine c'est Jean chapitre 4. Jean chapitre 8, Jésus dit bien à cette femme adultère, alors que tous les légalistes, les pharisiens sont là, ils sont prêts à la lapider. Vous connaissez ce récit, sinon relisez-le. C'est un des points culminants de la révélation de la grâce, mais d'une grâce qui n'est pas laxiste, d'une grâce qui n'est pas faible, d'une grâce qui n'est certainement pas permissive. Et Jésus dit à cette femme, alors qu'il a écrit sur le sol, et que tous les uns après les autres, repris par leur conscience, ont laissé tomber les pierres qu'ils avaient dans les mains et se sont tous retirés, du plus grand jusqu'au plus petit, tous. Tous accusés par leur propre conscience, juste parce que Jésus, à cause de ce qu'il est, de ce qu'il dégage, parce qu'il a écrit sur le sol, il a dit maintenant, d'accord, mais c'est celui qui n'a jamais péché qui va lui jeter la première pierre à cette femme. Il y a quelqu'un qui m'appelle, il faut que je m'en aille, j'y vais. Tout le monde est parti, et là, quel tableau magnifique. Jésus est là seul avec cette femme. Le poids de son péché, sa culpabilité, sa tristesse, sa souillure sur son cœur, sur son corps, sur sa vie. Jésus ne minimise pas le péché. Femme, où sont ceux maintenant qui te condamnaient? Et Jésus lui dit, c'est un des Everest de la révélation. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Maintenant, va. Ne pêche plus. Et là, le processus de repentance est complet. Il trouve réellement une dimension en moi. Et ça y est, enfin, je peux vivre les bénédictions du royaume, puisque la route de mon cœur est totalement dégagée. Je vous avais dit que je terminerai cette question pour la repentance. On en a fait le tour dans les grandes lignes. Mais je voudrais apporter cette précision parce que dans les cas concrets, dans les cas pratiques, ce n'est pas toujours évident. Et nous avons tendance un peu à mélanger. Et parfois, on a aussi des sentiments de culpabilité. On ne sait pas toujours trop quoi faire, comment faire avec des membres de famille spirituelle ou autre. Mais il y a un point très important à préciser, frères et sœurs, c'est que j'ai bien parlé de réparation. Il ne faut surtout pas confondre la réparation, la réconciliation et les relations. Ce sont trois choses qui sont en réalité, on va voir quelques exemples bibliques, qui sont totalement différentes. La réparation, c'est de faire ce que je peux faire pour régler ce que je dois régler avec qui je dois le régler. Ça, pour se repentir, c'est moi tout seul avec la grâce de Dieu. Pour réparer, c'est moi avec la grâce de Dieu. Après, ce qui peut être douloureux, ce qui peut être dans des cas difficiles, comme David et Saül, par exemple, ce qui peut être très compliqué, c'est d'avoir... justement, de faire tout ce que l'on peut, mais de ne pas avoir le répondant en face. Et là, il ne peut pas y avoir de réconciliation, même si d'un côté, le cœur est bien disposé. À la croix, Dieu montre que personne plus que lui n'a un cœur aussi bien disposé à la réconciliation. Mais si aujourd'hui vous êtes réconcilié avec Dieu, c'est grâce à Dieu, mais c'est aussi parce que vous, l'avez accepté parce que vous l'avez voulu et que vous avez répondu. Pour se réconcilier, il faut en réalité être deux. Et malheureusement, ce n'est pas toujours évident de se réconcilier ou d'avoir des relations. Je vais vous montrer trois cas très courts, concrets, vous allez comprendre. Parce que dans le cadre de la réparer, se repentir, ça c'est toi avec Dieu, tu le fais. Si c'est difficile, demande au Seigneur dans sa grâce, il va t'accompagner sur ce chemin de repentance, il va aussi pourvoir, il va aussi te donner, il va t'aider, il va te donner les occasions, les opportunités, le courage, le cœur, et il va faire son œuvre, mais tu as besoin de lui, et ça tu le fais tout seul avec Dieu, point. Et pour se réconcilier, ben, il faut être deux. Il faut être deux sur la même longueur d'onde. Pour avoir ensuite des relations, il faut être deux. Il faut être deux sur la même longueur d'onde. Et bien comprendre que la prise de conscience, la volonté de réparer, le cœur, la repentance, pardonner, demander pardon, ça me concerne moi, mais l'autre en face aussi, ça le concerne tout autant. Et c'est pour ça que je dis que pour se réconcilier, pour se relier, il faut être deux. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit bien, s'il est possible, Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, faites votre part. Et pour le reste, si par exemple vous demandez pardon à quelqu'un, que la personne en face vous en veut à mort et qu'elle ne veut rien entendre, là peut surgir, c'est pour ça que je veux insister sur ces points, là peuvent surgir des sentiments de culpabilité, et puis on voit que vous êtes vulnérable, alors on va essayer, ça n'existe dans aucune famille bien sûr, hein. Vous n'avez pas de membres de famille qui vous mettent de la pression, qui essayent de manipuler certains leviers, qui font ressortir des vieilles affaires, des vieux dossiers pour vous culpabiliser, pour vous manœuvrer, vous manipuler, etc. Ah là là, je suis chrétien, je respecte les principes du royaume de Dieu, d'accord, mais pardon d'être direct, hein. Je suis chrétien, mais je ne suis pas crétin. Je suis dans l'amour de Dieu et je fais ce que son amour me demande avec foi et obéissance, mais je ne suis pas dans le sentimentalisme. Je Nous sommes dans l'amour de Dieu, mais pas dans l'affect. Et très souvent, on déraille, parce que des fois, on manque de repentance, mais des fois, on va au-delà de la repentance. Et oui, mais l'autre en face, je suis navré, ça fait énormément de peine. Mais l'autre en face, toi, tu as fait ta part. L'autre en face, il ne veut pas. Regardez, par exemple, trois exemples concrets. Rapidement, vous connaissez ces histoires, donc ça ira très vite, sinon vous les relisez. David et Saül. En réalité, dans ce cas-là, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucune relation possible. Il n'y a aucune réconciliation possible. De toute façon, réconcilier, c'est Saül qui devrait se réconcilier. Mais David, vous voulez qu'il réconcilie quoi ? Son cœur est pur. Il est réellement victime d'une injustice. David n'a rien fait de mal. Et réparer, vous voulez que David répare quoi ? C'est très rare. Mais là, c'est vraiment le cœur de David qui est pur et le cœur de Saül qui est en train de s'enfoncer dans la folie. Que faire ? Il n'y a aucune relation possible. Saül refuse de se repentir. Saül s'entête dans son endurcissement de cœur et dans sa folie destructrice. David, au moins, lui, il va rester pur. Il va rester pur dans ses sentiments. Et c'est simplement ce que Dieu te demande dans certains cas, de rester pur dans tes sentiments. Je l'ai marqué ici. Je ne dis, je vous le dis, frères et sœurs, je l'ai déjà dit, je ne dis jamais à qui que ce soit ce que je vais prêcher. Personne, même pas ma femme. C'est entre moi et Dieu. Ça se fait tranquillement dans le courant de la semaine. Parfois, ça me tombe le lundi pour le dimanche. Parfois, ça m'arrive le samedi soir pour le dimanche. Je travaille, je médite et le Seigneur m'aiguille comme il veut, quand il veut. Je vous le dis devant Dieu. Je ne dis jamais à personne ce que je vais prêcher. Et je l'ai marqué ici, David a refusé toute forme de rancune. David a dit non, il a refusé toute forme de rancune sur la vie de Saül, parce que sinon, il se serait fourvoyé lui-même et il aurait fini par devenir ce qu'il pouvait reprocher à Saül. Et ça, c'était totalement inconcevable. Il fallait rester pur devant Dieu. Donc David reste pur, il reste intègre, il refuse de dire du mal. Il refuse de lui faire du mal. On l'avait étudié, il refuse de se venger. Il va simplement, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous pouvez parler une fois à des personnes qui sont des murs. C'est même pas des murs, c'est du béton armé, c'est du béton banché. Malheureusement, ça existe. Et une fois, il lui explique, il l'épargne, il lui dit, tu vois, roi Saül, il lui montre que son cœur est pur, qu'il n'a rien fait, il ne comprend pas cette situation. Et puis il va lui prouver son innocence une deuxième fois. Mais Saül fait le fourbe et l'hypocrite, il s'enfonce dans la folie. C'est triste, mais dans ce genre de cas, il n'y a aucun sentiment de culpabilité à avoir. Et David, il n'a pas couru après Saül. Je suis navré, ça fait mal. Mais si tu es en règle et que tu es pur devant Dieu, il y a des gens, ils ne veulent pas de toi. Ce n'est pas parce que tu vas leur courir après que ça va aller mieux. Parce que pendant que tu leur cours après, tu ne t'occupes pas de ta vie avec Dieu. Et en réalité, c'est eux qui te manipulent. Et David, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a dit ce qu'il avait à dire. Il l'a dit dans l'amour. Puis ensuite, il a laissé Dieu agir. Et est-ce que Dieu agit ? Bien sûr que Dieu a cherché à convaincre Saül. Malheureusement, il n'y a jamais eu de... Il ne s'est jamais rien passé puisque Saül s'est entêté jusqu'à la mort et jusqu'au suicide. Et preuve que David était pur dans son cœur. Il a même pleuré sur son beau-père. Il a pleuré sur Saül le jour où il est mort, où il s'est suicidé. Il l'a pleuré parce que c'était un gâchis phénoménal. Un autre cas de figure. Alors je disais que faire dans ces cas-là, bien vous avez compris. Hein. On va parler une fois, deux fois. Avec amour, mais on peut pas courir. Il y a des Saül, on ne peut pas leur courir après. Par contre, oui, évidemment, je vous le dis, c'est tellement logique. Oui, je peux prier, évidemment. Je prie pour que le Seigneur travaille leur cœur, parce qu'il n'y a que l'Esprit qui peut les convaincre. Je prie pour que leur cœur craque et qu'ils se repentent, qu'ils s'ouvrent et que les choses se règlent dans leur vie aussi, comme elles se sont réglées dans la mienne. Mais je n'oublie pas que n'importe quel Saül en face de moi, lui aussi est responsable de ses choix. Lui aussi a le libre arbitre. Lui aussi est responsable de se repentir. Lui aussi est responsable de, etc., etc. Si la repentance est valable pour moi, elle est valable aussi pour les autres. Ok ? Regardez Ésaü et Jacob. un autre exemple. Alors là, l'un comme l'autre, comme on dit communément, là, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Hein. Alors vraiment pas. Aucun, pas un pour racheter l'autre. Ils sont tous les deux coupables. Jacob est un usurpateur, un supplanteur, un magouilleur, un tricheur, un trompeur. Mais il va avoir une profonde et belle rencontre avec Dieu. Ésaü, lui, a un cœur irrévérencieux, irreligieux, il ne s'occupe pas de Dieu. Le fait qu'il ait méprisé son droit d'aînesse, derrière, c'est beaucoup plus grave que ça. Ça prouve son attitude de cœur et son mépris vis-à-vis des choses de Dieu, son mépris vis-à-vis de Dieu lui-même. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Mais en réalité, ils ont tous les deux des torts, tous les deux sont responsables et coupables. Et on voit en Genèse 33, on voit une magnifique réparation, puisqu'ils vont vraiment se demander pardon, ils vont tomber dans les bras l'un de l'autre, Genèse chapitre 33, verset 4. Et puis, on voit que les torts sont réellement réparés de part et d'autre. Tout est réglé entre eux. Tout est à plat. Oui, mais derrière, il n'y a pas de relation. Jacob, ce sera un patriarche, le Seigneur vient de changer son nom, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, et il a une destinée avec Dieu. Et malheureusement, Ésaü, même si tout est réglé, Ésaü reste, et qu'il y a réconciliation, ils sont authentiquement réconciliés, Ésaü reste malheureusement cet homme irreligieux devant Dieu, cet homme qui a un profond mépris des choses de Dieu. Il y a une parfaite réconciliation, mais ils ont deux chemins totalement différents. Et vous ferez attention en lisant Genèse 33, c'est que le jour même, le jour de leur réconciliation, Jacob, lui, ben c'est normal, Dieu l'attire. Donc Jacob, Israël, va prendre le chemin de Sichem, il va rentrer en Canaan avec tout ce que ça représente pour nous, chrétiens. Et puis malheureusement, lui, Ésaü, ben, il va poursuivre son égarement. Il va aller dans la montagne de Séir, au sud. Jacob monte vers le nord. Même géographiquement, vous voyez que Ésaü, lui, il va descendre vers la montagne de Séir. Et ce sera le territoire d'Édom, un peuple orgueilleux, vindicatif, idolâtre, ennemi d'Israël, qui fera toujours la guerre à Israël. Il y aura toujours un souci avec les Édomites. Ce sont les descendants de Saül. Deux fois dans l'Ancien Testament, il est dit, Ésaü, c'est Édom. Ésaü n'en veut plus du tout à Jacob, et inversement, mais malheureusement, ils n'ont rien en commun dans leur appel, et leurs routes vont naturellement se séparer. Il n'y aura pas de relation, comprenez ? Mais tout est réglé, tout est propre, il n'y a pas de souci. Et si Ésaü a choisi cette voie, ça fait bien de la peine qu'il soit devenu le père d'Édom, mais c'était son choix, mais aux yeux de Dieu, tout ce que Jacob devait régler est réglé. Merci Seigneur. Et puis, le plus beau de tous les exemples, celui-là, il est évidemment Joseph et ses frères. Là, il y a eu réparation, là, il y a eu réconciliation, et il y a eu aussi relation. Là, il y a les trois. Effectivement, c'est la situation idéale. On aimerait, j'aimerais, vous aussi, que ce soit toujours comme ça. Mais, comme je vous l'ai dit, hein, il faut être deux sur la même longueur d'onde pour que ça fonctionne. On voit effectivement une magnifique réconciliation. Genèse chapitre 45, Genèse chapitre 50, les frères de Joseph, conscients du mal qu'ils ont fait, vont demander, ils vont confesser, ils vont demander pardon à leur frère, à Joseph. Et Joseph, on le voit à deux reprises, va réellement démontrer son empressement à pardonner et à parce que Joseph est un type de Christ, à restaurer ses frères et à les bénir. Et puis, lorsqu'il va les accueillir, il va les installer, souvenez-vous, dans le pays de Goshen, qui est au nord-est de l'Égypte. Et ce secteur de Goshen, cette partie du pays qui s'appelle Goshen, est en réalité une terre extrêmement fertile. Et c'est vraiment un endroit de bénédiction pour eux, où ils vont pouvoir être en paix, se développer. Non seulement Joseph les a pardonnés, mais il va les bénir. Il va être un exemple de la grâce surabondante pour ses frères. Et ensuite, on voit que, puisqu'ils sont à Goshen, on voit qu'il y a des relations nécessairement entre Joseph et ses frères. Et puis, on le voit encore plus loin, Genèse 50, lorsque Jacob, Israël, meurt, Joseph et ses frères vont aller ensemble enterrer leur père en Canaan, revenir ensemble. Il va de nouveau leur laisser le territoire de Goshen, etc. Et là, Joseph les assure que même si leur père est mort, il prendra toujours soin d'eux. Et il leur apporte un amour inconditionnel. Il les restaure au-delà de tout ce qu'ils auraient pu penser ou imaginer. Ils ont vécu ici, il y a une authentique réparation, une véritable demande de pardon, il y a eu de véritables réconciliations, et ensuite il y a eu une authentique relation. Voilà la différence, bien aimé, mais ça vous comprenez que ça dépend. Il faut être deux. Mais pour la repentance est un principe de bénédiction. Elle ne dépend pas de l'autre, elle ne dépend que de toi. C'est toi avec Dieu qui règle ce que tu as à régler avec Dieu. C'est toi qui vas régler, réparer ce que tu peux régler et réparer avec qui tu dois le régler ou le réparer. Et puis c'est cette façon comme ça ainsi d'enlever les pierres du chemin, parce que je veux vraiment insister pour finir sur cette parole, que chacun soit bien conscient que tout ce que Dieu montre ici, c'est dans une intention réelle et déterminée de bénédiction. Le roi dit: je viens avec un cortège de bénédiction. Enlève les pierres qui sont sur la route de ton cœur. Repens-toi, règle ce que tu as à régler, parce que je vais te bénir au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Merci pour votre attention. Recueillons-nous un instant, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la grâce immense que tu nous as accordé en Jésus-Christ.